Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Nouvelle salve de sanctions américaines contre l'Iran, acte de sabotage contre 4 navires dont 2 pétroliers saoudiens au large des Émirats Arabes Unis, attaque de drones lancée par les rebelles houthis du Yémen contre 2 stations de pompage d'un oléoduc saoudien, envoi par le Pentagone pour faire face à une présumée menace iranienne de renforts militaires, 1500 soldats, porte-avions, bombardiers B-52 et missiles Patriot, les tensions au Moyen-Orient ont connu une escalade alarmante au mois de mai et ne semblent pas se calmer. Faut-il pour autant redouter une nouvelle guerre du Golfe? Un conflit par accident, entre guillemets, est-il possible? Jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller dans leur bras de fer avec l'Iran? Les sanctions américaines peuvent-elles faire tomber le régime des Mollahs? Comment interpréter les appels au dialogue lancés par Donald Trump aux dirigeants iraniens? On en débat avec nos invités. Pascal Boniface, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. François Nicolau, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez été ambassadeur de France en Iran de 2001 à 2005. Et David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IFAS, à l'Institut français d'analyse stratégique, et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, publiée par l'Harmattan. Pascal Boniface, est-ce que la haine que les États-Unis semblent éprouver à l'égard de l'Iran relève aujourd'hui de l'irrationnel ?
Oh, toute la haine a ses raisons, et c'est une haine à la fois des États-Unis, mais particulièrement de Donald Trump, qui en ajoute par rapport effectivement à une image détestable que l'Iran a en général pour le public américain depuis 1979, à la fois la révolution roménie, mais surtout la prise d'otage de l'ambassade américaine, puisque les États-Unis ont été humiliés, et que c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude et qu'ils ne supportent pas. Mais comme en plus Obama a voulu faire la paix avec l'Iran et que Donald Trump veut défaire tout ce qu'a fait son prédécesseur, il y a une haine particulière de Donald Trump à l'égard du régime d'Ebola, et on peut penser que l'un de ses objectifs, c'est le renversement de ce régime avant les élections de 2020, pour qu'il puisse venir devant ses électeurs pour dire « j'ai obtenu ce que personne auparavant n'a pu obtenir, j'ai le scalp du régime iranien », et donc il y a eu un changement de régime, non pas par la voie militaire, plutôt par la voie économique, mais c'est très certainement un objectif de Donald Trump avant les élections de novembre prochain.
François Nicolau, vous êtes d'accord ?
Oui, tout à fait. Il y a en effet à la fois la détestation de l'Iran et puis, comme l'a dit Pascal, la détestation d'Obama. Je crois que c'est vraiment un moteur très très fort dans la tête de Donald Trump. Il veut en effet défaire tout ce qu'a fait Obama. Et sur le plan international, Obama a eu un succès incontestable. C'est cet accord nucléaire passé avec l'Iran. Et donc, Donald Trump s'efforce absolument de détruire finalement, d'effacer de l'histoire cet accord. Veut-il aller à la guerre ? Non. Ça, c'est quand même très très clair. Il n'a pas envie d'y aller, d'abord parce que son électorat n'a pas envie de voir les États-Unis embourbés dans une nouvelle crise au Moyen-Orient. Et donc, son jeu, voilà, c'est d'obtenir quelque chose, effectivement, de démontrer qu'il est capable de négocier mieux qu'Obama, d'obtenir mieux qu'Obama, sans aller jusqu'à la guerre. On en est là aujourd'hui.
Mais en même temps, Donald Trump avait promis à ses électeurs de retirer les soldats américains des scènes extérieures, d'Afghanistan, d'Irak. Là, il renforce le contingent américain dans le Golfe. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, David Rigoulet-Rose ?
Oui, il y a une contradiction relative. Alors, pour ce qui est des autres théâtres, le retrait est plus ou moins engagé, acté. Ça concerne la Syrie, d'une certaine manière. L'Afghanistan aussi, avec toutes les hypothèques qui pèsent quand même sur l'effectivité des retraits en question. Dans le cas de l'Iran, il est pris un peu... C'est un jeu dangereux parce qu'effectivement, il est dans une logique de régime change finalement non assumé militairement. Donc, il est amené quand même en termes de dissuasion, à renforcer les effectifs militaires de sa stratégie de pression maximale. Et là, c'est un jeu dangereux parce qu'en réalité, il se lie les mains d'une certaine manière avec l'objectif qui s'est assis a fortiori si effectivement c'est une perspective par rapport à l'élection présidentielle, en sachant que son électorat demande au contraire un retrait. Et donc là, il y a une contradiction effectivement qui n'est pas levée de la part de Donald Trump, parce que c'est parasité par ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'un et l'autre. C'est une dimension subjective par rapport à Obama, au passif d'Obama, enfin ce qui est supposé être le passif d'Obama, et effectivement sa détestation assez personnalisée de la politique qui l'a précédée.
Alors, il a voulu donc détricoter l'héritage Obama. Est-ce qu'il n'a pas voulu aussi faire plaisir à ses alliés israéliens et saoudiens, Pascal Boniface?
Oui, ça va d'ailleurs dans le même sens, puisque Israël et l'Arabie saoudite avaient également une aversion pour Obama, personnel de Netanyahou et du prince héritier d'Arabie saoudite, même si, en réalité, Obama a toujours soutenu Israël, a même plutôt augmenté les crédits, mais en tous les cas, Netanyahou et Obama étaient en non-speaking terms, s'ils étaient vraiment pas en état de se parler. Et donc, effectivement, on voit bien que, en fait, Trump écoute aucun de ses alliés, sauf Israël, l'Arabie saoudite, parce que Israël, c'est le lien spécial. L'Arabie saoudite, c'est un potentiel immense marché. Et donc, on voit que c'est un peu les deux seuls pays qui peuvent avoir une quelconque influence ou une oreille. Mais en même temps, même par rapport à eux, Donald Trump se décide avant tout pour des critères de politique intérieure. Et ce qui est frappant, bien sûr, tous les présidents américains et tous les chefs d'État intègrent toujours une part de politique intérieure dans la détermination de leur politique étrangère, mais jamais, je crois, personne ne l'a fait aux États-Unis et dans le monde au point où Donald Trump le fait, parce que toutes ces actions internationales, qu'il s'agisse de déchirer l'accord climat, qu'il s'agisse de se retirer d'UNESCO, qu'il s'agisse de changer l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem, et surtout de déchirer l'accord nucléaire iranien et de vouloir mettre à terre le régime iranien, c'est avant tout pour des raisons de politique intérieure, parce qu'il sait que c'est un trophée qui sera apprécié par ceux qui ont voté pour lui et qui veulent voir effectivement le régime iranien tomber, parce que on peut dire que si les États-Unis sont le grand Satan pour certains Iraniens, eh bien l'Iran est quand même très largement diabolisé, globalement aux États-Unis, mais avant tout parmi ceux qui ont voté Donald Trump.
David Rigoulet-Rose, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'obsession de George Bush pour l'Irak de Saddam Hussein et l'obsession des faucons de la Maison-Blanche, comme le conseiller à la sécurité nationale John Bolton ou le secrétaire d'État Mike Pompeo pour l'Iran?
Oui, mais la configuration est un peu différente parce que Donald Trump n'est pas un néoconservateur, même si Bolton en est un, effectivement, culturellement. D'ailleurs, assez paradoxalement, le président dit que c'est plutôt lui qui modère, qui tempère son conseiller à la sécurité nationale, ce qui est assez stupéfiant comme déclaration. Donc lui n'est pas un néoconservateur, il est dans une logique de deal, il l'a toujours dit, et d'ailleurs ça revient dans l'expression qu'il a vis-à-vis de Téhéran, en proposant son numéro de téléphone, il est dans cette logique de deal, donc il ne veut pas la guerre, il l'a dit à plusieurs reprises, ça fait écho d'ailleurs à la déclaration du guide de la Révolution qui lui-même aussi dit qu'il ne souhaite pas la guerre. Le problème c'est qu'on arrive dans des tensions qui sont susceptibles de dérapage, et la logique de deal peut être subsumée par effectivement c'est un caractère accidentel, vu le caractère inflammable de la région. Donc, la situation par rapport à 2003, George Bush, est un peu différente. À l'époque, c'était vraiment une logique néoconservatrice de changement de régime, de national building. Là, c'est pas le cas du tout. D'ailleurs, il a dit qu'à la limite, il ne voulait pas spécialement changer le régime iranien. Il voulait simplement que le régime revienne à une posture moins agressive au niveau régional, notamment. Donc, c'est pas une logique néoconservatrice comme on pourrait le croire de prime abord.
François Nicolau.
Le problème, c'est qu'au fond, Trump, en dépit des apparences, est assez faible, hein, parce qu'il travaille pas beaucoup, il lit pas les dossiers. Et donc, son entourage avait tout un système autour de lui qui mène sa propre politique. Il y a des jeux quand même assez étonnants. Bolton ne mène pas la même politique que son patron. Bolton, effectivement, cherche à pousser absolument les Iraniens à la faute, en espérant effectivement qu'une fois qu'on arrivera à créer une situation inextricable, Trump ne pourra plus reculer, en quelque sorte, devra aller à l'agression. Trump a toujours freiné. Trump a dit qu'il voulait sortir de Syrie et depuis qu'il a dit ça, finalement, toute l'administration s'agite pour empêcher que cette décision s'applique. Les gens ne s'en vont pas. Trump a envoyé effectivement des troupes supplémentaires dans le golfe Persique, mais un minimum par rapport à ce qui a été demandé. Les gens demandaient 5 000, 10 000, 12 000. Il en a envoyé 1 500, ce qui est quand même très très peu de choses à la limite. Et voilà, il y a ce jeu quand même très très compliqué qui se joue à Washington. C'est difficile à déchiffrer, c'est difficile à désamorcer en quelque sorte, ce qui fait qu'effectivement, bien que Trump n'ait pas envie de la guerre, hein, ça c'est très très clair, n'ait pas envie d'un conflit, d'abord parce que en période électorale qui s'approche, c'est pas très bon d'avoir ajouté un nouveau conflit dans le paysage politique. Et bien malgré tout cela, en effet, il peut y avoir des dérapages qui conduisent à la guerre. Du côté iranien, en un mot, les Iraniens ont été quand même extrêmement prudents jusqu'à présent. Ils ont été intelligents pour deux, on peut dire. Ils ont évité d'entrer dans une spirale qui pourrait devenir incontrôlable. Mais en même temps, Rouhani, le président de la République, ne peut pas apparaître comme trop faible à l'égard de toute la classe politique conservatrice qui l'entoure, qui le surveille, qui essaye au fond de le rendre à peu près impuissant. Il doit aussi démontrer que il résiste. Et donc, voilà, on est dans ce jeu compliqué. En plus, le président de la République ne contrôle pas tout. On a vu qu'il y avait des opérations qui ont été menées manifestement dans la région par les Pasdaran, hein, les gardiens de la révolution, qui mènent au fond leur propre jeu. Voilà, donc des deux côtés, aux États-Unis et en Iran, on n'a pas vraiment une cohésion parfaite de la volonté politique, ce qui fait que les incertitudes peuvent faire à tout moment faire apparaître de nouveaux problèmes et faire monter la crise.
Vous parliez des Pasdaran, les gardiens de la Révolution. David Rigoulet-Rose, est-ce que la décision des Américains en avril de placer les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes relève du symbolique ou bien est-ce qu'elle a été perçue par Téhéran comme une réelle provocation ?
Ah oui, ça a été perçu comme une réelle provocation parce que c'est la première fois, c'est inédit, c'est la première fois qu'un corps militaire d'un État constitué est mis sur la liste des organisations terroristes, en sachant qu'effectivement il y a une particularité pour les Pasdaran, qui est un corps qui a été créé par le Khomeini au moment de la révolution islamique pour protéger la révolution, donc qui est parallèle, c'est une armée parallèle, mais qui est intrinsèquement liée au régime iranien, donc on peut pas dissocier. Donc mettre sur la liste des organisations terroristes, c'est stigmatiser en même temps directement les autorités iraniennes. Et d'ailleurs, la réponse du berger à la bergère s'est pas fait attendre, puisque les Iraniens ont considéré que la 5e flotte, les effectifs américains dans la zone, pouvaient relever d'organisations terroristes. Donc c'est inédit et c'est problématique, parce que dans le cas où il y aurait une transition avec un autre exécutif à Washington, ça va être très très difficile pour un éventuel autre exécutif de revenir sur la liste des organisations terroristes, quand bien même un autre exécutif le souhaiterait. En termes d'opinion publique, ce sera très difficile de faire marche arrière. Et ça, c'est un problème.
Pascal Boniface ?
Oui, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais revenir sur le positionnement de Donald Trump par rapport à son entourage, ses conseillers. En fait, Donald Trump n'a pas bonne presse en France et dans le monde en général, comme George Bush. Mais il ne faut pas confondre les deux. Effectivement, il est important de faire une distinction entre Donald Trump et les néoconservateurs. Donald Trump est brutal, il est complètement unilatéraliste, mais il n'est pas néoconservateur au sens où il veut arrêter cette politique d'hégémonie libérale poursuivie par tous ses prédécesseurs depuis la fin de la guerre froide, consistant à exporter, entre guillemets, la démocratie, y compris par la force. Et Donald Trump est beaucoup plus isolationniste là-dessus. Il veut ne pas être mêlé aux affaires du monde d'un point de vue militaire. Bolton, lui, le souhaite parce que Bolton est un néoconservateur, mais Bolton n'a aucune influence sur Donald Trump. Il est là parce qu'il fallait donner un gage de politique intérieure aux néoconservateurs, et Trump a dit à plusieurs reprises à John Bolton, « John, tu ne m'entraîneras pas dans ta guerre. » Bolton a envie d'en découdre avec l'Iran, mais Trump n'a aucune envie de le faire parce qu'il voit bien le poids, et là-dessus, il faut de temps en temps dire qu'il peut avoir raison, il voit bien le poids et le prix à payer pour les États-Unis de leurs différentes interventions militaires. La vraie défi pour Trump, c'est aussi la Chine. Il a donné un coup de fil à Carter qui lui a dit, mais c'est simple, depuis que j'ai reconnu la Chine, qu'on a établi des relations diplomatiques depuis 1979, la Chine n'a jamais été en guerre et nous l'avons toujours été, chaque année. Et c'est ça qui explique aussi le rattrapage de la Chine sur les États-Unis. Donc Trump ne veut pas de la guerre. Et donc, en fait, comme il veut rompre avec tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs, en fait, l'administration, le Pentagone, etc., n'ont pas d'influence sur lui. Lui, il se base sur son instinct, sur son flair, et il n'écoute pas les conseillers. Alors, on est loin des 120 000 hommes qui avaient été annoncés, déployés dans la région. C'est un déploiement, effectivement, beaucoup plus limité. Mais certains de ses conseillers espèrent l'accident. Espère que, il y ait un accrochage et que, du coup, Trump ne puisse plus reculer. Parce que si un navire américain était attaqué par un garde-côte, etc., par rapport à l'opinion publique, quoi, on s'est laissé faire, on va pas se laisser faire. Et c'est ça qu'il vit, c'est la guerre par accident. Et on sait bien que les accidents, on peut pas toujours les éviter.
Vous êtes d'accord, donc, en ce moment, on joue dans le golf un peu avec le feu?
Ah oui, c'est inflammable au sens propre comme au sens figuré, puisque il y a des incidents qui se multiplient. Alors malgré les efforts de certains qui souhaitent modérer l'évolution de la situation, il y a aussi des bouts de feu par ailleurs, et c'est là le problème. C'est qu'il y a une vraie contradiction, y compris dans des deux côtés, ce que vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, que ça soit à Téhéran ou à Washington, des contradictions au sein même des exécutifs respectifs. Et donc c'est là où le risque est important, parce qu'il y a un manque de lisibilité et un problème de possible mésinterprétation de certains événements qui potentiellement peuvent déboucher sur un conflit ouvert. Et c'est ça tout le problème.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors Donald Trump a dit qu'il ne voulait pas la guerre, il a dit aussi qu'il ne voulait pas faire tomber le régime de Téhéran, mais en même temps, en asphyxiant l'économie iranienne, est-ce qu'il ne cherche pas quand même à provoquer un soulèvement
Il l'a dit auparavant d'ailleurs.
Mais après, l'a nié.
Donc. Oui, enfin bon, disons qu'il a un rapport à la vérité quand on sait qu'il est plutôt élastique. Mais effectivement, son objectif, c'est la chute du régime iranien pour justement dire tout ce que mes prédécesseurs depuis 79 ne sont pas parvenus à faire. Même Reagan, même George Bush, eh bien moi j'y suis parvenu. Et donc il espère le faire en fait à bas prix. C'est-à-dire que toute sa stratégie par rapport à Cuba, par rapport au Venezuela, c'est non pas faire des interventions militaires pour avoir les changements de régime, mais les étrangler économiquement pour que ici ou ailleurs, la population se révolte ou les gouvernements chutent. Et on voit bien que par rapport à l'Iran, il vise sur une révolte populaire d'une population qui serait excédé par les restrictions, par les pénuries, par le fait que Rouhani a promis la réconciliation avec les États-Unis avec comme objectif le développement économique, et il n'a pas. En fait, toute la modération, ça pose des problèmes en Iran, parce que le camp des durs peut dire à Rouhani, tu nous avais promis que si on cédait sur le nucléaire, il y aurait une amélioration économique, elle n'est pas venue. Donc Rouhani peut être contesté à la fois par les plus durs et par une population, et c'est ça que vise Trump. C'est une révolution, un changement de régime, mais non pas par la force comme en Irak, mais simplement en interne. C'est la théorie du chaos constructif, dont on peut d'ailleurs penser qu'elle a peu de chances de se réaliser, mais il mise dessus. Et on peut penser qu'il a trois objectifs avant 2020, faire tomber au moins l'un des trois régimes haïs par les États-Unis, Venezuela, Cuba et l'Iran. Peut-être que le Venezuela, d'ici 2020, Maduro aura du mal à tenir. Il pourra y avoir beaucoup de chaos en Iran, mais il n'est pas certain qu'il puisse obtenir le renversement du régime des Mollahs avant 2020.
François Nicolau, vous êtes d'accord?
Oui, en effet. Ce que je pense, c'est que Trump est un peu déçu. Il espérait que ça irait plus vite. Hein. Les sanctions ont été rétablies à partir d'à peu près un an, commençaient à se mettre en place. Et je pense qu'on lui avait expliqué que les choses iraient très très vite si on serrait les boulons. Et puis finalement, le régime tient. Jusqu'à présent, il tient. Il souffre de plus en plus. Hein. Il y a quand même eu il y a une déclaration, par exemple, du ministre de pétrole qui dit: en ce moment, c'est plus dur que du temps de la guerre Irak-Iran. Ça veut dire que vraiment les Iraniens souffrent, les dispositifs d'application des sanctions se sont resserrés, se sont sophistiqués. Les moyens d'évasion que les Iraniens avaient mis au point dans la période précédente, en 2012, quand ils subissaient également des sanctions très dures, notamment sur le pétrole, ces moyens d'évasion, de contournement, les Américains ont trouvé des façons de les empêcher. Donc l'Iran souffre. Est-ce que cela va faire tomber le régime? On n'en est pas encore là. Malgré les espoirs, effectivement, de Trump, le régime le plus important pour lui, en effet, c'est de résister. Il ne veut pas aller à la table de négociation avec un pistolet sur la tempe, dirait notre propre président, c'est pas le style iranien. Donc, on est dans une situation bloquée, effectivement. En même temps, une situation bloquée, j'allais dire une crise, ça offre des opportunités. Ça bouge en ce moment. Tout le monde essaye de trouver des solutions. On a bien vu que Trump a lancé des signaux disant « moi, je suis prêt à parler avec vous ». Les Iraniens n'ont pas totalement fermé la porte de négociation. Hein. Rouhani a dit « on peut négocier si on est traité avec respect hein. ». Ça, c'est quand même très important. Il y a le problème de face également en Iran. On en est là. Ça peut bouger, ça peut aller dans un sens positif. Là, vraiment, la situation est vraiment, ça peut partir vraiment dans tous les sens en ce moment.
On va faire une pause, si vous le voulez bien, le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à discuter de l'escalade des tensions dans le Golfe.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue dans la seconde partie de Géopolitique. Jusqu'où peut aller l'escalade des tensions dans le Golfe? Un dérapage militaire pourrait-il entraîner un nouveau conflit? Que cherchent réellement les États-Unis en asphyxiant l'Iran? On continue d'en débattre avec nos invités. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, François Nicoulot, ancien ambassadeur de France en Iran, et David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IFAS. David Rigoulet-Rose, est-ce qu'un nouvel accord sur le nucléaire iranien est possible entre les deux camps, entre l'Iran et les États-Unis et les grandes puissances?
Ce serait le Graal pour Donald Trump, notamment par rapport à la
perspective. Oui, lui, c'est ce qu'il veut, mais Téhéran, pour l'instant, ne veut pas.
Oui, alors, les choses ne sont pas forcément aussi fermées qu'on peut le penser, même si en apparence, il y a une impasse. Monsieur Nicoulot évoquait un certain nombre de personnes qui font des allées et venues. Bon, là, il y a l'avenue de Shinzo Abe. Il y a le positionnement d'Oman, qui est traditionnel, qui sert de plateforme en général discrète à d'éventuels contacts, qui avait d'ailleurs été activé sous l'administration Obama et qui est susceptible d'être réactivé par Donald Trump, justement parce qu'il veut absolument parvenir à un nouveau deal. C'est quand même son objectif. Simplement, il voudrait un accord à ses seules conditions, ce qui va être très difficile parce que les Iraniens sont pas prêts à accepter n'importe quoi, même si la situation interne est extrêmement difficile, comme elle a jamais été. Et là, il a fait probablement, il a surestimé les capacités de sa stratégie de boa constrictor, c'est-à-dire que la population iranienne, si elle désavoue éventuellement le régime, elle n'est pas prête à une révolution. Elle ne veut pas une situation à la syrienne, à l'irakienne. Elle est dans une logique transformiste du régime. Et donc, là-dessus, il y a peut-être un mauvais calcul de la part de Washington qui pensait que les seules sanctions allaient effectivement conduire à un basculement. Donc les choses ne sont pas hypothéquées de manière définitive, mais enfin ça va être très très difficile parce que faut sauver la face de part et d'autre. Et en l'occurrence, il ne donne pas beaucoup de gages à Téhéran pour accepter de négocier dans des bonnes conditions.
Pascal Boniface.
Oui, parce que les conditions auxquelles Donald Trump serait prêt à signer un nouveau deal sont inacceptables pour Téhéran, parce que ça serait une remise en cause et d'ailleurs sont peu acceptables pour les autres signataires. Il faut quand même souligner que non seulement la Chine et la Russie, la France et l'Allemagne, mais y compris le Royaume-Uni, restent complètement collés à l'accord du 14 juillet 2015, et y compris la Grande-Bretagne a mis son accord pour créer un véhicule spécial pour pouvoir contourner l'interdiction de Donald Trump de pouvoir continuer à commercer avec l'Iran. Donc il y a quand même un attachement à l'accord de 2015 qui paraissait le point d'équilibre parfait, empêchant les deux scénarios catastrophes d'un Iran avec des armes nucléaires ou d'une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir les armes nucléaires. Et donc, ce qui est acceptable pour Trump et inacceptable pour le régime iranien, alors effectivement, un sommet serait possible. Il a bien rencontré Kim Jong-un, donc il peut tout à fait rencontrer Rouhani.
Il l'a rencontré, mais un an après, le dialogue est au point mort.
Voilà. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'on voit bien que l'attitude américaine sur l'Iran n'encourage pas beaucoup la Corée du Nord de faire des efforts sur la dénucléarisation. Puisque finalement, ce que montre Trump, c'est que la signature américaine ne vaut pas grand-chose et qu'elle peut être remise en cause. Donc là aussi, ce qui se passe en Iran a des répercussions sur la Corée du Nord. Mais donc en fait, je pense qu'un accord n'est pas possible parce que pour Trump, il ne peut pas, par rapport à sa propre population, par rapport à son propre électorat, accepter un accord qui soit à peu près le même que celui de 2015. Et les demandes qu'il fait au régime iranien, c'est de cesser d'être le régime iranien.
Donc en fait, très concrètement, il réclame que soit inclus le programme balistique de l'Iran.
Oui, bon, et d'accord. Puis aussi une modération de comportement, la fin de l'aide au Hezbollah, arrêter les interférences au Yémen, même s'il y en a quelques-unes de la part de l'Iran. On peut penser que d'autres acteurs étatiques étrangers sont beaucoup plus actifs au Yémen que l'Iran. Et donc, en fait, il demande à l'Iran de ne plus être une puissance régionale et de rester un pays fermé sur lui-même.
Et ça, c'est inacceptable pour les Iraniens, François Nicoulot.
Les Iraniens, en revanche, ils disent à Trump... On pourrait discuter, mais il y a un premier geste que vous devez faire avant toute chose, c'est de revenir dans l'accord que vous avez quitté. On peut pas discuter avec quelqu'un qui entre, qui sort. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de revenir dans l'accord. Revenir dans l'accord, ça veut dire lever les sanctions, évidemment, que vous avez installées il y a maintenant à peu près un an. Et ça, en miroir, c'est évidemment inacceptable pour Trump. Ceci étant, moi, je suis persuadé qu'il est impossible d'arriver à un accord global compte tenu des positions qu'on vient d'exposer, mais il y a quelque chose sur lequel on peut jouer et espérer, c'est que au fond, Trump, il est prêt à passer à peu près n'importe quel accord du moment qu'il ait la photo, du moment qu'il ait le sommet, au bon moment, là, au moment des élections, au moment où il pourrait dire, regardez, moi je suis meilleur qu'Obama, j'ai obtenu des choses qu'Obama n'a pas obtenues. On a vu qu'il a, par exemple, modifié certains accords à la marge, et qu'il s'en est énormément vanté en disant que c'est lui qui avait tout changé. Donc, je suis convaincu que s'il y a une porte de sortie à l'heure qu'il est, c'est sur un accord limité où les Iraniens feraient quelques gestes, les Américains feraient quelques gestes, et ceci, évidemment, serait mis sous la loupe de Donald Trump, qui ferait tout ce qu'il faut pour expliquer qu'il est meilleur qu'Obama, il est arrivé à obtenir quelque chose de mieux qu'Obama, et donc c'est lui le meilleur des présidents des États-Unis.
David Rigolet-Rose, vous la voyez comment, la porte de sortie ?
Pour l'instant, elle est assez loin, compte tenu du contexte délétère qui prévaut. On voit mal dans l'immédiat à court terme ce qui pourrait déboucher sur un accord formalisé, compte tenu des tensions de part et d'autre. Effectivement, il y a la perspective de la présidentielle, il veut absolument parvenir à un accord. Mais quand on regarde le bilan des différents conflits, et que ça soit la Corée du Nord, le Venezuela, donc l'Iran, il n'est pas en mesure de se prévaloir d'un succès avéré dans aucun des cas. Sur le Venezuela, il pensait que ça se ferait très vite. D'ailleurs, mal conseillé par Bolton, manifestement. Sur l'Iran, il pensait que ça irait plus vite parce que les pressions sont maximales comme elles ont jamais été. Elles font très mal, mais ça ne va pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Sur la Corée du Nord, manifestement, les choses sont bloquées. Donc, il est quand même embêté par cette situation parce que son obsession, il est un caractère obsessionnel, c'est de parvenir à un deal dont il puisse se prévaloir dans la perspective de la présidentielle. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, il est assez contrarié par cette situation et il a du mal à trouver de nouveaux moyens qui seraient susceptibles de faire basculer la situation à son profit.
Alors, le 8 mai, c'est-à-dire un an jour pour jour après le retrait américain de l'accord de Vienne, l'Iran a lancé un ultimatum aux autres signataires de l'accord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Chine, en leur donnant 60 jours pour trouver une parade concrète aux sanctions américaines. Donc, cet ultimatum va expirer le 8 juillet. Il se passe pas grand-chose du côté des Européens pour le moment. Est-ce que cet ultimatum a des chances d'aboutir? Et s'il n'aboutit pas, est-ce que l'Iran pourrait décider à son tour de se retirer de l'accord? François Nicolau.
On peut appeler ça un ultimatum, mais c'est vraiment un des ultimatums les plus gentils,
donc
les plus mesurés,
de détresse, en fait.
Les mieux calibrés de l'histoire de l'humanité. Hein, vraiment, c'est plutôt un appel au secours. Très franchement, il faut le lire comme un appel au secours. Rouhani est sous la pression, précisément, du guide de la révolution.
Des durs, hein, du régime.
Des durs de régime, il faut qu'il montre qu'il résiste lui aussi, qu'il ne se laisse pas manipuler, qu'il n'est pas le jouet des grandes puissances, et donc il a bâti cette progression extrêmement mesurée où il va reprendre un petit peu de production d'uranium enrichi, un petit peu de production d'eau lourde, voilà, des matières qui sont effectivement sensibles en matière de prolifération, mais ça se fait d'abord extrêmement progressivement. Et puis surtout, il a beaucoup répété, oui, je fais ça, mais je ne sors pas de l'accord. Hein. Tout ceci se passe quand même dans le cadre de l'accord de Vienne. Donc, c'est une façon de dire que les Iraniens tiennent beaucoup quand même à rester dans cet accord de Vienne. Même si on n'en tirait pratiquement aucun avantage, il y a au moins un avantage qu'ils en ont retiré, c'est leur restauration de leur crédibilité, de leur respectabilité sur la scène internationale. C'est eux qui sont dans la position haute en matière morale, si vous voulez, notamment à l'égard des États-Unis qui sont sortis de façon totalement incompréhensible.
Pascal Boniface, et les Européens, pourquoi sont-ils aussi impuissants face à un Donald Trump qui non seulement dynamite en quelque sorte l'accord sur le nucléaire auquel on avait abouti après plus d'une dizaine d'années, hein, 15 ans,
oui,
je crois,
12 ans, oui, au
12 ans de négociations, mais en plus Donald Trump qui oblige le reste du monde à cesser tout commerce avec l'Iran sous peine de subir les foudres américaines.
Bah, c'est bien la contradiction globale des Européens, non seulement sur ce dossier-là, mais en général. C'est qu'on est lié stratégiquement aux États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, y compris après la fin de la Guerre froide, et en même temps, on voit bien que Trump a déclaré que l'Union européenne est son ennemi. On est un peu prisonnier d'une habitude stratégique, de ce que j'appelle une dépendance stratégique dont on a du mal à sortir, alors que les États-Unis ne nous traitent pas comme des alliés. Et là, par rapport à l'Iran, il y a à la fois une réaction de dire on essaye de soutenir l'Iran, on essaie de soutenir l'accord, on crée un véhicule spécial pour continuer à commercer avec l'Iran, mais on, très franchement, vis-à-vis de l'atteinte à la souveraineté que Trump fait en disant vous ne pourrez plus commercer avec l'Iran, la réaction européenne est elle aussi, je dirais, d'une netteté timide. À la fois, on ne cède pas, mais il n'y a pas non plus une révolte. On pourrait dire, ça suffit, c'est inacceptable. Enfin, je veux dire, là, dans l'affaire, Trump nous traite comme l'Union soviétique de Brejnev traitait la Tchécoslovaquie et la Pologne, en disant, vous n'avez plus le droit de commercer avec l'Iran. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Et en même temps, il réussit. Total est parti, Air France est parti, Peugeot est parti, et donc il y aura peut-être quelques petites compagnies. Et donc, la vraie réponse européenne serait de dire, non seulement on crée un véhicule spécial, mais on commence à réfléchir sur, est-ce qu'on continue à utiliser le dollar comme monnaie internationale. Il faut quand même se rappeler que quand on a créé l'euro, c'était une monnaie de souveraineté. Mais on ne l'utilise pas. On utilise moins l'euro qu'il y a 10 ans. Et donc, cette réponse européenne n'est pas une réponse de soumission, mais c'est plus une révolte très gentille et très maîtrisée, et pas une réponse à la hauteur des défis auxquels Trump devrait nous obliger à répondre.
Ce véhicule spécial dont vous parliez, c'est Instex, ce système de troc pour contourner les sanctions, une sorte de bourse d'échange pour éviter de passer par le système financier
international. Alors, symboliquement, c'est important, les symboles sont importants, mais on voit bien que concrètement, quand Total, et d'ailleurs ça met un peu en question l'idée de champion national qu'on avait auparavant, mais quand Total réfléchit entre le marché iranien et le marché américain, il a vite choisi. Et donc aujourd'hui c'est l'Iran, mais après ça va être Cuba, et Trump va continuer. Donc il est quand même temps de sortir de notre somnambulisme stratégique dans lequel nous sommes plongés, en disant nous sommes alliés aux États-Unis, on a besoin d'eux, etc. Et patin et couffin, le discours ambiant que l'on entend régulièrement, non. Si les États-Unis nous traitent comme des vassaux, nous devons réagir.
David Rigoulet-Rose, Instex, c'est dérisoire, c'est presque humiliant même pour les Iraniens.
Oui, pour les Européens aussi, parce que d'une certaine manière, c'est une chambre de compensation. Le principe d'une chambre de compensation avec un capital de 3 000 euros, qui est très très peu, mais qui est inopérant. D'ailleurs, il ne porte pas sur les enjeux stratégiques qui sont les enjeux pétroliers.
Oui, il ne touche que concerne que les médicaments et l'alimentation.
Agroalimentaire, médicaments, etc. Parce qu'il y a effectivement le principe de l'extraterritorialité américaine qui joue, qui va poser un problème d'ailleurs pour le dollar à terme. C'est le problème de l'hégémonie du dollar sur le système financier, etc., avec le système SWIFT notamment. Mais en l'état actuel, c'est une arme redoutable, puisque c'est une arme de dissuasion massive pour toutes les grandes entreprises. Donc les seules entreprises qui vont prendre le risque éventuellement d'aller sur le marché iranien sont des petites entreprises. D'ailleurs, on peut noter que les seules banques qui opèrent sont des petites banques, ce ne sont pas les grandes banques comme BNP, Société Générale, qui avaient fait l'objet de pénalités financières terribles il y a quelques années, et donc ils prendront sûrement pas le risque d'être partie prenante du commerce avec l'Iran. Donc il y a de la part des Européens un effort louable, on va dire, mais qui n'est pas poussé jusqu'à son terme, parce qu'effectivement, il y a un problème de souveraineté commerciale qui est posé par rapport aux États-Unis. Ce serait une occasion inédite de fonder une certaine autonomie stratégique, on va dire, par rapport à justement au lien avec les États-Unis, qui, en leurs circonstances, nous considèrent comme des vassaux, effectivement. Malheureusement, on est trop divisé pour que cette opportunité soit utilisée pour donner à l'euro un rôle qu'il n'avait pas encore et pour marquer son autonomie stratégique. Et là, ça pose un vrai problème pour l'Union européenne par rapport à l'Iran, mais de manière générale pour d'autres pays, effectivement.
Et la Chine, est-ce que la Chine peut...
On va en arriver là, peut-être, quand même un mot sur... Quand l'euro a été créé, c'était totalement une monnaie, disons, pour faciliter le commerce entre les Européens, mais les Allemands, à l'époque, avaient clairement fait comprendre qu'ils ne voulaient pas en faire une monnaie internationale qui pourrait concurrencer le dollar, précisément, pour ne pas avoir l'air d'apparaître agressif à l'égard des Américains. Ce qui fait que aujourd'hui, si vous voulez, l'euro n'a pas conquis cette place de monnaie internationale qui offrirait effectivement une alternative aujourd'hui. Tout se passe en dollars. Donc, les États peuvent réagir, se dresser sur leurs ergots en disant « les Américains n'ont pas le droit de faire ça, c'est les moutons qui résistent contre le baron noir ». Sur le plan économique, on est totalement impuissant parce qu'on est dans le capitalisme international, dans un marché libre, et puis voilà.
Pascal Boniface, la Chine avait garanti la survie économique en quelque sorte de l'Iran lors de la phase précédente des sanctions, avant 2015. Est-ce qu'elle va à nouveau soutenir l'Iran aujourd'hui ou s'occuper de ses intérêts dans ses propres négociations avec Donald Trump?
La Chine va s'occuper de ses intérêts, elle ne va pas mourir pour Téhéran, elle va s'occuper de la Chine, ce qui est légitime. Mais en même temps, Trump a certainement fait une erreur par rapport à la Chine, parce que s'il avait dit, bon, je m'occupe de l'Iran d'abord, donc interdiction à quiconque, y compris japonais, coréen et chinois, d'acheter du pétrole iranien, dans un premier temps, les Chinois ont cessé d'acheter du pétrole iranien, ils n'ont pas passé de nouvelles commandes après début mai, ils ont alimenté les commandes passées pour les remboursements de la dette, mais ils n'ont pas passé de nouvelles commandes. Et là où Trump, au lieu d'attendre finalement que le régime iranien tombe comme un frimur, comme on lui avait promis, il a engagé un autre combat avec Pékin, sur Huawei, sur les droits de douane. Et du coup, Xi Jinping, il a lui aussi une opinion publique. Et lui aussi, il ne peut pas céder, parce que l'opinion publique est maîtrisée en Chine, pas sur les questions de nationalisme et de patriotisme. Parce que là, c'est quand même le moteur du régime, l'un des moteurs du régime. Et donc, autant on aurait pu penser que les Chinois se seraient accommodés d'être empêchés de commercer avec l'Iran et auraient laissé tomber l'Iran. Mais là, si les États-Unis les attaquent de tous côtés, sur l'Iran, sur Huawei, la Chine va devoir réagir. Et Xi Jinping ne va pas accepter, il s'est exprimé nombreuses fois, la chimie du régime communiste chinois, c'est pas l'œuvre de Marx et de Mao, c'est le patriotisme et le capitalisme. Donc il va devoir réagir, et là, ça demande que Trump a fait une erreur tactique. Et on voit bien qu'il y a un axe, parce que pendant qu'on fêtait le D-Day en Europe, il y avait un sommet Poutine-Xi Jinping en Russie, et que Poutine a parlé de la dédollarisation de l'économie internationale, et que les Chinois pourraient être tentés de passer des opérations dans leur propre monnaie. Et donc là, peut-être que Trump a eu les yeux plus gros que le ventre, et qu'il a commis une erreur stratégique à l'égard de la Chine. Alors, ce qui est quand même malheureux, c'est que nous, Européens, on va attendre de Moscou et de Pékin un acte de réaction par rapport aux États-Unis pour préserver notre souveraineté. C'est quand même pas très glorieux.
Et autre erreur de Donald Trump, parce que ce n'est pas donc une autre erreur que de pousser l'Iran dans les bras de la Russie aussi, qui déjà maintenant a un rôle d'arbitre au Proche-Orient grâce, entre guillemets, à son rôle dans la guerre en Syrie.
Oui, alors faut relativiser concernant la Russie. Les relations entre la Russie et l'Iran sont des alliances de circonstances. C'était le cas pour la Syrie, mais c'est plus militaire que géopolitique, parce qu'il y a des rivalités entre les deux pays qui sont sous-jacentes, notamment sur la question du gaz à destination de l'Europe. Donc il n'y a pas forcément convergence de ce point de vue-là économique entre les deux pays. Et pour rebondir à ce que disait Monsieur Boniface sur la Chine, effectivement, il y a probablement une erreur tactique, d'autant plus que la Chine était en train de développer ses relations pétrolières avec l'Arabie Saoudite, au détriment justement de l'Iran. Et donc là, il y avait effectivement une opportunité à consolider, parce que ça permettait de dissocier la Chine de Téhéran en matière pétrolière, avec ce renforcement de l'axe entre Pékin et l'Arabie Saoudite. Et effectivement, la guerre commerciale avec la Chine parasite la stratégie globale de l'administration Trump par rapport à l'Iran.
Donc, pour résumer, François Nicolau, je vais vous donner la parole pour clore l'émission. Ce bras de fer États-Unis-Iran est parti pour durer.
Est parti pour durer et pour prolonger un peu les réflexions qui viennent d'être développées. Ce qui est assez curieux, c'est que finalement, les Iraniens n'ont qu'un seul ami au monde, j'allais dire, ce sont les Européens. Il y a des alliances de circonstances, même si elles sont très solides, ce sont quand même des alliances de circonstances. Avec la Chine a aidé l'Iran au moment des sanctions, c'est très clair, mais elle a quand même énormément profité de l'Iran, demandant des rabais considérables sur le pétrole, vendant de la camelote, si vous voulez, par rapport à ce que les Iraniens espéraient. Et la Chine ne peut pas se substituer aux Européennes, par exemple, pour les grands investissements pétroliers. Hein. Ils n'ont pas les technologies suffisantes. C'est pas le monde arabe non plus qui sont leurs amis. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste vraiment les Européens. Et maintenant, c'est un peu l'enjeu des années à venir, c'est de créer précisément, à partir de ce constat, c'est d'arriver à créer un lien quand même beaucoup plus solide et beaucoup plus permanent entre l'Iran et les Européens.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Votre dernier livre, Comprendre le monde, les relations internationales expliquées à tous, est sorti chez Armand Collin. François Nicolau, ancien ambassadeur de France en Iran. On peut encore lire Le Turban et la Rose, journal inattendu d'un ambassadeur en Iran, qui est paru chez Ramsay en 2006. David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IFAS, vous avez signé Géopolitique de l'Arabie Saoudite, paru en 2005 chez Armand Collin. Et l'Iran pluriel, regard géopolitique, aux éditions L'Harmattan en 2011. Géopolitique, c'est fini. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand, Louise Karadec et Yael Co qui m'ont aidé à la préparer. On se retrouve demain, même heure, pour débattre de la descente aux enfers du Sahel. Bonne soirée à tous.